Je suis Claire. Voilà, je suis secrétaire de l'association des planteurs d'idées.
Ok.
Et Bernard, je suis trésorier de l'association.
Trésorier voilà. De l'association.
Et planteur.
Et planteur. Alors, on va revenir sur ce terme planteur un peu plus tard dans l'émission. D'abord, est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette association, comment elle s'est créée? Elle date d'août 2016, c'est ça? 31 août 2016. Voilà. C'est assez récent, finalement.
Oui, ça fait... Alors, avant de créer l'association, on avait déjà eu pas mal de barbecue réunions pour préparer ça. Et donc, voilà, la date de création de l'association, c'est le mois d'août 2016.
Mois d'août 2016.
On peut dire bon c'est le président Benjamin Dubuis qui a eu une expérience aux Pays-Bas de ce type d'aménagement d'espace public et qui fort de cette expérience et emballé par cette expérience a essayé de mobiliser et a réussi à mobiliser autour de lui avec lui voilà une espèce de bande voilà on est eu un noyau dur d'une quinzaine de personnes. Voilà, d'origine et de, je veux dire, de profession très différente. Enfin, il y a ce côté aussi qui est tout à fait intéressant et qui apporte un dynamisme, je pense, essentiel. Voilà.
Parce qu'il faut le préciser, planteur d'idées, en quelque sorte, en fait, c'est de l'agriculture urbaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition?
C'est de l'agriculture urbaine. Après, si on précise un peu, on va se limiter à certains types de plantation, mais ça on pourra éventuellement y revenir. C'est-à-dire, on n'est pas, par exemple, dans une activité potagère. Voilà. Hein? Donc, on précisera, parce qu'il y a pas mal d'expériences de potager partagé, de potager en ville. Mais là, le choix, effectivement, c'est de ne pas cultiver des légumes, sauf des légumes perpétuels. Vous voyez, perpétuels. Ça veut dire qu'on n'y revient pas une fois qu'ils sont plantés.
Ah oui, ça veut dire qu'ils restent toujours là.
Ils restent là, en principe, voilà. S'ils se sentent bien, ils restent et ils perdurent. Voilà. Et à côté de ça, après, il y a d'autres types de plantations.
Alors, lesquels, par exemple? Est-ce que
alors,
vous
il y a des petits arbres fruitiers, des arbres fruitiers, d'abord. Commençons par les plus grands. Pommiers, poiriers, pruniers, voilà.
Ça pousse tout ça à Tours?
Oui, ça pousse.
Vous savez,
la question est un peu naïve, mais je pense qu'on
est à Saint-Pierre-des-Corps, on est au jardin Gambetta, et là, tout cet espace-là, pour les tourangeaux, néo-tourangeaux et anciens tourangeaux, c'était des terrains maraîchers. Donc, il y a de la très bonne terre. Voilà. Même si sous le substrat, là, sous la pelouse, il y a un remblai qui nous a posé quelques soucis quand on a voulu faire des trous. Mais il y a quand même de la bonne terre et puis on a apporté ce qu'il fallait aussi pour l'amender.
Et puis l'idée, c'était d'avoir des plantes qui soient adaptées à notre environnement ici, au climat. Et donc quand on a conçu, il y a Simon qui est un paysagiste dans l'équipe.
Oui,
et
oui.
Du coup, l'idée, c'était de faire du bio aussi. Donc forcément, qu'il n'y ait pas besoin d'apporter de trop de choses en plus. Et donc de choisir des plantes adaptées à la vie locale.
Qu'est-ce qui vous a incité à rentrer dans cette association? Est-ce que c'est par souci de développement durable? Est-ce que c'est des convictions personnelles? Expliquez-moi.
Je suis la compagne de Benjamin Dubuis, donc j'ai suivi.
Aux premières loges.
Voilà, j'étais aux premières loges de la naissance de l'idée, et puis j'ai vu aussi aux Pays-Bas du coup nos amis qui ont déjà monté ce type de projet. Et puis, alors moi j'étais plus au sein de l'association, on s'est un peu réparti des tâches. Moi, de mon métier, j'étais plus axée sur l'aspect pédagogique et l'aspect, on n'a pas encore parlé, mais d'associer les écoles et les enfants aux plantations.
Oui, moi c'est un côté à la fois une idée, des principes, une forme d'utopie, c'est-à-dire de s'approprier avec l'accord de la puissance publique, la mairie de Saint-Pierre-des-Corps en l'occurrence, s'approprier un espace public pour y planter des choses qui vont pousser des fruits et qui ensuite vont être, pour le bénéfice de tout le monde. C'est-à-dire que ça n'appartient à personne et ça appartient à tout le monde. Voilà. Et donc il y a cette dimension où on a une dimension environnementale, une dimension politique, une dimension sociale, une dimension pédagogique. Mais moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est qu'après, c'est concret. C'est-à-dire qu'il faut mettre les mains dans la terre, on plante et on regarde après ce que ça donne. Donc il y a à la fois un aspect, une idée, ça, on peut dire un aspect théorique, mais aussi un aspect très pratique et très concret. Et dans une ambiance exceptionnelle, enfin très amicale, très conviviale. Voilà.
L'idée de passer à l'action aussi.
Voilà.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire cette idée de quelque chose qui appartient finalement à tout le monde sans appartenir à personne. Ça veut dire que tout le monde pourrait se servir dans ce que vous plantez dans les
arbres. Absolument.
Arbusques. D'accord.
Absolument.
En accès libre.
En accès
voilà.
libre. Et vous n'avez pas peur qu'il y ait des gens qui en abusent de
Mais bien
de
sûr qu'on a peur. Mais en même temps, si c'est la peur qui nous fait, enfin qui nous motive ou qui nous plombe, si à ce moment-là on fait rien. Donc là, il y a un côté effectivement d'expérimenter et on associe le plus possible les gens du quartier, des élèves des écoles de Saint-Pierre et une école de Tours d'ailleurs aussi, et pour faire en sorte qu'il y ait une appropriation collective. Alors vous savez, en même temps, on sait très bien qu'une bande de trois garnements en une nuit peuvent tout saccager. Ça, on le sait. On n'est pas non plus nés de la dernière pluie. Nous ne sommes pas que des doux rêveurs. Mais il faut aussi quand même... l'idée, c'est de tenter quelque chose en se disant, voilà, si on a des voisins aussi qui sont impliqués, ils seront attentifs, voilà, ils pourront intervenir. On a déjà eu, d'ailleurs, Claire...
Oui, on a déjà eu un message d'une dame, parce qu'on n'a pas encore mis toute la signalétique, expliqué tout le principe du parc. Là, c'est la plantation, ça date de la semaine dernière, donc c'était tout neuf.
Effectivement, on va en reparler, voilà. On va reparler plus précisément tout à l'heure de tout ça. Allez-y, je vous ai coupé, pardon.
Non, non, juste un retour d'une dame qui nous a envoyé un mail en disant ce matin, j'étais avec des petits-enfants, il y en a un qui a cueilli une framboise parce qu'il restait encore des framboises, et je me suis fait gronder par une dame qui m'a dit que j'étais une voleuse. Et du coup, on l'a juste félicité d'avoir bien compris le concept, et voilà, on va mettre aussi une signalétique qui explique un peu tout ça.
Oui.
Et puis, pour compléter ce que disait Bernard, c'est que déjà là, même si y a des choses qui seront abîmées peut-être ou voilà, déjà là on a passé une super semaine et on aura récolté autre chose que des fruits pour le moment. Enfin, les gens se sont rencontrés, on a rencontré des gens, les enfants ont déjà mis les mains dans la terre et ça déjà ce sera super.
Alors effectivement, vous avez planté des arbres fruitiers et tout autre chose du 2 au 12 novembre, c'était à ce moment-là.
Ouais.
On y reviendra.
On l'a dit, on l'a fait.
Voilà, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un gros événement, c'est quelque chose que vous aviez entrepris et qui s'est concrétisé récemment. J'aimerais qu'on revienne d'abord sur l'association, et vous dites notamment développer une dynamique collective autour de l'alimentation, de l'environnement, etc. Qu'est-ce que signifie cette dynamique collective selon vous ? Est-ce que c'est des choses qu'il faut que tout le monde fasse, c'est-à-dire s'investir dans le développement durable et puis aussi dans cette agriculture urbaine, ou c'est autre chose ?
Enfin, déjà pour nous, la prétention, enfin, c'est de montrer l'exemple. C'est aussi de dire, voilà, on est une 15-20, enfin voilà, et en échangeant, en discutant, en réfléchissant, après on passe à l'action et on y arrive, voilà. Donc démontrer que c'est possible et que l'espace public, ce parc était un peu, pas à l'abandon, mais enfin,
un peu
désinvesti, pas très très bien lourdement aménagé, en tout cas voilà, pas forcément extrêmement glamour, voilà. Voilà, mais en tout cas assez vaste pour pouvoir conserver une pratique ancienne. Il y a un panneau de basket, il y a des terrains, on peut jouer au foot, en fait, etc. Il y a quelques jeux pour les enfants, mais là on apporte une autre dimension déjà en termes visuels et puis en termes aussi de participation, c'est-à-dire que c'est les citoyens qui investissent le parc, pas que des services spécialisés de la mairie ou une entreprise privée qui viendrait, je veux dire, faire le boulot. Déjà, la démarche de ce point de vue-là, elle est quand même différente et originale, en tout cas sur la métropole.
Et puis l'idée, c'était vraiment de le faire tous ensemble, c'est-à-dire que ce soit pas juste nous, personnes de l'association, parce qu'en plus, on n'était pas tous de Saint-Pierre-des-Corps, loin de là.
Oui.
Voilà, donc ça n'avait pas forcément de sens. L'idée, c'était vraiment de fédérer autour de ça et d'y inclure les espaces verts qui nous ont beaucoup aidés, les espaces verts de la ville de Saint-Pierre, enfin, voilà, du collectif.
C'est de là, du coup, que vient votre devise « semer, cueillir et partager ».
C'est ça.
Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement ces trois termes ça fait un triptyque un peu particulier, mais est-ce que vous pouvez nous les décrire, ces trois termes ?
Après, il faut, voilà, on a commencé là. Alors, semer, là, on est plus, disons, planté, si on veut être précis. On n'est pas loin de la Sainte-Catherine, et vous le savez, tout prend racine, hein, la Sainte-Catherine. Donc non, c'est une période très favorable pour les plantations d'arbres, par exemple, fruitiers, ou aussi les petits arbustes fruitiers, comme les cassissiers, les framboisiers, les groseilliers, les casseilliers. Peut-être si vous me le demandez, je vous dirai ce qu'est le casseillier par rapport aux autres plantes. Et donc là,
je note la question,
on plante, là on plante, on a planté. Après, effectivement, on va laisser... la nature faire son œuvre, et on va retrouver les enfants, les habitants au mois de mars pour implanter là des plantes aromatiques, mais rustiques, hein. C'est des plantes qui ne craignent pas trop la chaleur et qui ne craignent pas trop le froid, donc là aussi qui puissent, je veux dire, se développer sans encombre. Voilà, donc après, donc planter.
Et partager.
Et ensuite, partager.
Cueillir,
une fois que ça, oui. Et partager.
Partager, alors, c'est aussi partager un savoir-faire, parce que j'imagine que vous avez aussi des connaissances en termes d'agriculture. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous qui est spécialisé là-dedans
Claire, tu as évoqué donc Simon, le cas de Simon, qui lui est paysagiste. Il travaille dans un cabinet d'architecte, mais lui, son métier, c'est effectivement... Donc il a été, je veux dire, décisif pour faire les dessins pour l'implantation de tout ce qui a été planté la semaine dernière. Donc, voilà.
Et puis Benjamin qui s'intéresse à tout ce qui est sur la permaculture
qui devient de plus en plus féru en termes de permaculture. Sachant que derrière, il y a aussi quand même le service des espaces verts de la ville de Saint-Pierre qui est complètement partie prenante, et notamment la responsable, Madame Dubois, qui, elle, nous a soutenus dès le départ, et voilà, qui peut aussi donner des conseils, enfin éviter éventuellement des erreurs. Là aussi, c'est le collectif, c'est-à-dire c'est à la fois des citoyens, mais ce sont des élus, et des habitants, et des enfants. Enfin voilà, on a tout à fait le triptyque.
Et aussi des personnes d'associations qui n'y connaissent rien, et qui avaient juste envie
de participer
et d'apprendre.
Et de découvrir. Oui. Voilà.
Est-ce que, avant de planter tout ça, vous faites des études de terrain, et notamment par rapport à la pollution ? Parce que l'agriculture urbaine pose aussi le problème de la pollution et de l'urbanisation de façon générale. Est-ce que vous n'avez pas peur, notamment avec la pollution de l'air, que ça trouble un peu le concept, je dirais, de ça, de planter des...
Là où c'est implanté, c'est quand même... Déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur Saint-Pierre-des-Corps, il y a quand même une tradition maraîchère très, 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 très importante. Après, on n'a pas de facteur de pollution, où la seule usine qui était classée, c'est Céveso, autour de la fabrique du gaz. Je ne me souviens plus là directement le nom de cette usine. Enfin, voilà, on n'a pas un impact trop important. Après, les sols sont travaillés, et puis on a apporté aussi, on a amendé, c'est-à-dire on a apporté de la terre végétale, du compost, et puis aussi du paillage, tout ça. Sachant, il faut savoir aussi, quand même, quelque part, c'est que la ville de Saint-Pierre-des-Corps est zéro phyto. Donc aucun apport de produits chimiques, je dirais, ni pesticides, ni engrais chimiques, depuis 2009. Bon, donc voilà, on est aussi dans ce cadre-là. Donc on est dans un environnement très favorable concernant cette approche environnementale et qualitative.
Okay. Pardon, je vous vois prendre la parole, allez-y.
Non, pas de soucis. Non, l'idée aussi, c'est pas forcément que de faire un quartier du vieux Saint-Pierre autosuffisant et que tout le monde se nourrisse uniquement de ses fruits et légumes. Là, oui. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir aussi, en rentrant chez soi ou en se baladant dans le parc, de pouvoir manger une pomme ou de pouvoir cueillir quelques framboises sans, pour amener chez soi.
Sans se poser la question de savoir à qui ça appartient, et sans passer pour un voleur.
Absolument.
Voilà. Ces initiatives sont accueillies par les gens? Est-ce que vous avez des retours par rapport à ça? Qu'est-ce qu'ils vous disent?
On a eu pas mal de retours sur l'après-chantier, et même pendant le chantier, avec des personnes du voisinage qui nous ont suivis pendant 10 jours, qui sont venues quand il y avait les scolaires.
En fonction de leur disponibilité, voilà. Hein, c'est sûr. Parce qu'elles sont surtout intervenues, les adultes, le samedi et le dimanche. On avait aussi aménagé aussi l'organisation pour que les enfants soient plutôt dans la semaine et après les parents plutôt le week-end. Sachant qu'en amont, il y avait une réunion ouverte pour présenter le projet dans une salle municipale de Saint-Pierre. Et on avait été un peu surpris par l'affluence, voilà, qui était déjà... Donc c'est un projet qui résonne, je pense que ça résonne auprès des habitants, enfin de certains des habitants. Il ne faut pas dire les habitants, mais soyons modestes encore une fois, mais auprès d'habitants. Mais ceux qui s'y intéressent sont vraiment emballés, quoi. On sent ça, il y a quand même une espèce de ferveur.
C'est un peu dans l'air du temps aussi, c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, l'agriculture urbaine, etc. Donc c'est aussi...
Tant mieux. On participe de ce mouvement. Mais avec cette dimension, encore une fois, qu'on n'est pas sur du potager, hein, même si c'est nécessaire. Le potager, c'est complètement nécessaire. Mais là, la dimension nouvelle sur, la métropole, c'est cette dimension arbres fruitiers, petits fruits, vivaces, enfin aromatiques.
Qui ne demande pas d'entretien, en fait, ou très peu d'entretien.
Voilà, alors est-ce qu'on peut faire une distinction et puis définir ces termes de potager, arbre fruitier, etc. Quelle est la différence finalement entre
alors,
tout ça?
Alors, un jardin potager, c'est notamment la production de légumes, pommes de terre, tomates, haricots verts, voilà.
Qui nécessite de l'entretien.
Qui nécessite une présence régulière. Alors surtout le printemps, l'été, après avec des arrosages l'été, enfin cette année, enfin, bon, ça a été assez fluctuant, mais il y a des moments où il fallait venir arroser, sinon on perdait complètement ces récoltes à venir, quoi. Voilà. Donc là, on n'a pas ce souci, je veux dire, les plantes sont plus autonomes, disons, voilà. Les plantes sont
autonomes et perpétuelles.
Et perpétuelles, voilà.
C'est ce
pour les légumes.
Pour expliquer le concept un peu aux enfants, quand on est... Alors, on a fait en amont du chantier, on a fait une première intervention dans les classes, les parties, un peu les écoles, pour expliquer le projet aux enfants et commencer à les intéresser à cette idée-là. Et voilà, pour leur expliquer, on disait qu'on était des gourmands et des fainéants, c'est-à-dire qu'on voulait des choses comestibles et des choses qui ne demandent pas beaucoup d'entretien. Donc ils ont eu plein d'idées de tomatiers et
de clémentiniers, de bananiers. Attention les enfants.
Fainéants, faut quand même planter les arbres à la base, ça quand même.
Voilà. Oui.
On va en parler évidemment tout à l'heure, mais ça nécessite quand même un travail.
Mais c'est dans l'entretien.
C'est dans l'entretien, effectivement.
L'idée, c'est que par la suite, y compris pour que ça ne demande pas non plus un supplément de travail pour les espaces verts de la ville de Saint-Pierre, c'était de réorganiser des événements dans l'année autour de la taille des fruits, de nouvelles plantations, et avec une idée d'apprentissage aussi, pourquoi pas de faire venir des professionnels qui transmettent aussi leurs connaissances pour une gestion du parc aussi par les habitants.
Alors j'ai envie d'avoir votre point de vue sur un sujet. Il y a aussi à Tours quelque chose qui est en train de se concrétiser, ça s'appelle les jardins perchés. Est-ce que vous en avez entendu parler? C'est des jardins qui consistent, alors là pour le coup c'est privé, c'est des logements sociaux, mais qui intègrent des toitures, des serres, etc., des toitures végétales, hein, pour être précis. Et ça a commencé en septembre 2017, les travaux. Est-ce que vous en avez entendu parler
Bon, dans les publications municipales, effectivement. Alors, sachant que je crois qu'il y a des projets, c'est géré par un maraîcher, mais professionnel. Donc, il y a une forme de délégation. Et le but, c'est effectivement de pouvoir nourrir dans la proximité un certain nombre de locataires ou de propriétaires, d'habitants en tout cas, voilà. Alors moi, je trouve que tous ces projets, effectivement, de la réappropriation de la nature dans la ville sont tout à fait intéressants. Alors après, il faut les mettre en place et il faut que ça vive. Et puis après, il faut qu'on voit comment ça marche ou que ça marche pas. Et puis si ça marche pas, eh ben on trouve une autre idée. Et de toute façon, fondamentalement, c'est ça, c'est-à-dire c'est de remettre de la nature, de la campagne un peu dans la ville, quoi.
D'autant plus que c'est des mouvements qui s'élargissent et qui naissent et qui fleurissent comme des champignons partout dans le monde finalement, et pas,
tout à fait, bien
pas
sûr,
qu'à
bien
Tours
sûr,
évidemment,
bien sûr.
Pas qu'en France, mais partout dans le monde.
Parce qu'il y a un besoin essentiel, profond, je dirais presque viscéral, de ce contact aussi avec la nature.
Et... pouvoir réobserver comment ça pousse, comment
voilà,
ça, voilà,
tout bêtement.
De rapprocher ça de chez nous.
Il y a aussi le débat et puis la question de l'urbanisation, parce qu'on sait que la démographie galopante va atteindre des sommets, notamment en 2050, et avec une population de plus en plus urbaine. Et c'est aussi de savoir nourrir cette population, donc profiter des villes, des parcs, etc., pour faire pousser des arbres et
alors il y a une forme
fruitiers.
De paradoxe, là on est dans un débat effectivement de développement urbain où plus on développe l'urbanisme, c'est-à-dire qu'on s'approprie aussi des terres agricoles, bon, qui valent pas grand-chose quand elles sont terres agricoles, et dès que ça devient constructible, pour un paysan, un agriculteur, qui peut-être, je veux dire, est en difficulté, c'est une facilité de vendre, mais ça veut dire aussi que ben, la ville s'étend, et prendre la terre, quelque part. Et que donc, on se dit, si on fait stop, il y a des maires qui disent, on arrête le développement, le grignotage, le mitage hein, de l'espace, comme ça, par un habitat social ou horizontal. Donc, on revient sur la ville et effectivement, on revient à un habitat avec pas des tours comme ça s'est fait à une certaine époque, mais avec des petits immeubles collectifs, avec des étages, etc. Donc, ça veut dire que si on veut garder de la nature, effectivement, il faut trouver de nouvelles idées, c'est-à-dire construire peut-être en hauteur, pas trop haut quand même, et pas trop dense, mais en essayant d'imaginer comme ça des solutions où la nature est toute proche, quoi. Enfin, et une nature consommable, pas que esthétique, c'est-à-dire des fleurs, etc. Parce que nous, on va aussi avoir des fleurs, mais ce n'est pas que sur un plan esthétique, c'est aussi sur un plan d'apporter de la biodiversité, c'est-à-dire pour permettre aussi à une faune d'insectes, etc., ben de s'épanouir. Et si, pendant qu'elles s'attaquent aux fleurs, elles vont laisser tranquilles, je veux dire, les cassissiers, les framboisiers, les ciboules, etc. Voilà.
Ce que je vous ai pas dit, ça va être la surprise, c'est qu'en fait je vous ai préparé un petit quiz sur l'agriculture urbaine et puis un peu plus généralement l'écologie. Est-ce que vous êtes prêts? Je mets un petit jingle et on est parti. Faut pas avoir peur, hein. Alors, première question, à votre avis, combien d'arbres disparaissent chaque année de la déforestation?
Alors, à Saint-Pierre-des-Corps, à Tours, en France ou dans
Allons,
le monde?
Dans le monde. Ouais.
Des milliards, moi je dirais, je suis sur le milliard, voilà, d'arbres qui disparaissent.
Alors en fait, c'est probablement des milliards, mais on compte en hectares, donc pour le coup ça change un peu la donne. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser.
Combien d'arbres par hectare,
en hectares.
Bernard?
En tout cas, on estime à peu près environ 15 millions d'hectares qui partent chaque année en fumée. Quoi, c'est le cas de le dire, c'est assez énorme. Deuxième question, à votre avis, en pourcentage, alors c'est toujours question arbres, le territoire français est couvert de combien de pourcents d'arbres? Là aussi, c'est assez étonnant.
Oui.
Le chiffre est assez étonnant.
Alors moi, je dirais sur le territoire, je dirais plus de 50%.
Plus de 50%.
J'étais sur un 40, moi.
Et on est à 30%.
Ah oui,
à 30%.
Ils ont déforesté pendant que j'avais le dos tourné, alors, parce que je croyais qu'ils étaient...
Mais c'est quand même un chiffre important. Il faut aussi le dire, il y a quand même beaucoup d'arbres et beaucoup de forêts en France.
Oui.
D'ailleurs, c'est un pays qui replante,
effectivement.
L'Europe, de façon générale, il y a une reforestation, contrairement à d'autres pays. Troisième question. À votre avis, alors là, c'est du coup pile dans le thème. En 2050, combien serons-nous d'habitants sur la planète et combien en ville?
Alors, 9 milliards sur la planète.
Bravo. Et alors, en ville,
et
combien
en ville,
de citadins
alors,
en pourcentage?
On va être 80%.
Oh, bravo. C'est pile ça. 80% et 9 milliards.
Bravo, Bernard.
80% de citadins. Donc ça, alors,
ça
rentre dans le débat de l'agriculture urbaine.
Oui, bien sûr. Sure.
Quatrième question, là pour le coup on est dans le vif du sujet. Détroit, qui a connu un véritable cataclysme après la crise économique et qui connaît un déclin notamment en termes démographiques depuis les années 50, s'est relevé en partie grâce à l'agriculture urbaine. Est-ce que vous savez le nombre de fermes et de jardins urbains qu'il y a là-bas dans cette ville, aux États-Unis évidemment?
Alors là,
je devrais savoir, j'y suis allée voir.
Ah,
mais...
Oui, oui.
Mais non, j'ai
pas. À toi,
pas...
Claire, à toi, Claire.
Non, j'ai, pas, là, moi... j'ai pas de chiffres, mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir cette ville. Du coup, on a vu Détroit hein, aussi.
Ah oui.
Et on y allait, et c'est impressionnant de voir le nombre de champs et de maisons de lieux abandonnés à côté de très proche du centre-ville. Et donc, on avait fait un tour des jardins. Des jardins de particuliers ou juste de gens qui réinvestissent la terre pour pas qu'elle devienne non plus friche. Enfin, il y avait aussi cette vision-là de d'entretenir la terre qui est à côté de chez nous, qui sinon deviendrait totalement délabrée.
Alors, selon les chiffres 2016, il y aurait environ 1500 fermes et jardins urbains là-bas. C'est quand même assez énorme.
Mmh. Oui, il y a autant des collectifs de paroissiens que des gens qui font du maraîchage et qui font de la vente.
Oui, voilà, tout compris, voilà, en fait. Voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs domaines, on ne l'a pas précisé.
Mais ça donne un paysage assez impressionnant.
Assez vert, du coup. Ouais. Dernière question. À votre avis, où est située la plus grosse serre urbaine du monde ?
Aux Pays-Bas ?
Non, c'est pas aux Pays-Bas. Non, c'est pas aux Pays-Bas.
Je sais pas.
Il faut traverser l'Atlantique. On n'est pas loin des États-Unis pour le coup.
Au Canada.
Voilà, au Canada et plus particulièrement à Montréal. Ouais. La ferme de Loufa, elle s'appelle Loufa, on me pardonnera pour ma prononciation. Et en fait, elle a été créée en 2011 et il y a aujourd'hui plus de 3000 m² qui sont cultivés et qui produisent 700 kg de légumes par jour, en sachant évidemment que c'est une ferme sur un bâtiment. Hein, c'est pas, c'est pas une serre en plein centre-ville, c'est une serre qui est située sur un bâtiment. Donc c'est quand même des chiffres... assez gros, 700 kilos de légumes par jour, ça, ça parle peut-être plus aux gens que 3000 mètres carrés.
On aura appris des choses.
Voilà, mais vous n'avez pas été si ridicule que ça pour que vous voyez, j'avais pas besoin de vous prévenir. J'aimerais qu'on revienne maintenant sur l'événement qui s'est passé du 2 au 12 novembre. Alors, c'était un chantier autonome, c'est ça, vous me dites si je me trompe, et en fait, vous avez planté des arbres fruitiers, etc., et c'était ouvert à tout le monde, c'était collectif. Est-ce que
disons
vous pouvez
que
nous parler de ça?
La mairie, enfin, les services techniques de la mairie ont préparé des bancs, donc creusé la pelouse avec une pelleteuse, donc matériel que nous n'avons pas et que nous n'avons pas loué, et ensuite, effectivement, à partir de là, une fois que les bandes ont été préparées, l'association et les habitants et les sont intervenus, bon, en apportant de la terre, du compost, pour faire des buttes, et puis ensuite pouvoir aussi, on a pu planter aussi des poteaux pour faire courir des fils, parce qu'il y aura aussi de la vigne, il y aura des mûriers, mais des mûriers gentils, pas des mûriers piquants, sauvages de la campagne, dont les fruits sont peut-être meilleurs, mais on n'est pas là dans... C'est la mûre civilisée, urbaine, et plus grosse, moins goûteuse peut-être, mais en tout cas qui grimpe bien sur ces fils. Donc, grosse préparation avant de pouvoir directement... en sachant que la mise en place était faite avec la participation des services techniques de la ville de Saint-Pierre-des-Corps.
Alors oui, pour être précis, donc c'était à Saint-Pierre-des-Corps, j'ai oublié de le préciser, je m'en excuse.
Parc Gambetta.
Voilà, Parc Gambetta, effectivement. Et le but, c'était évidemment de planter des arbres fruitiers, etc., qui serviront finalement à tout le monde ou qui seront un sorte d'open space un peu agricole. Alors pourquoi participatif ? Est-ce que beaucoup de gens vous ont rejoint et comment ça s'est passé un peu pendant ces 10 jours, on le rappelle ?
Alors donc c'est les 10 jours, il y avait deux week-ends et donc une semaine au milieu. Sur les deux week-ends, il y a le mercredi après-midi aussi, on a monté un tipi à kiwi.
Un tipi à kiwi. Voilà.
Et
quelle drôle d'idée.
ça faisait une cabane du coup, c'est un énorme tipi qui doit faire peut-être 4 mètres de haut, et donc sur lequel les kiwis vont grimper, et on a fait une ouverture pour que ça fasse une cabane après à terme pour les enfants. Et donc sur ces, il y a à peu près une centaine de personnes qui nous ont rejoints sur ces deux week-ends, et sur la semaine, donc on l'a dit, il y a 6 écoles qui sont venues intervenir, ce qui fait à peu près 240 enfants, chaque enfant ayant planté un petit arbre fruitier, ce qui fait 240 arbres fruitiers.
Oui, parce que aussi, enfin, le but de planteur d'idées, vous me dites si je me trompe, c'est aussi transmettre ce savoir et cette connaissance de la nature et de l'agriculture.
C'est-à-dire que c'est vrai que dans un monde urbanisé ou connecté, il y a une perte un peu peut-être du contact avec une certaine forme de réalité, notamment avec la nature. Donc il est très important que les enfants voient comment, d'où vient la plante, comment, enfin d'où vient le fruit et quel est le processus de fabrication du fruit pour ensuite pouvoir avoir le plaisir de le consommer. Mais c'est important de savoir comment ça marche. Voilà.
Et là, notre intervention, on l'a étalée sur toute l'année. C'est-à-dire qu'on a fait une première intervention en octobre, on est intervenu dans les classes pour faire une sorte d'introduction. Là, les enfants ont planté pendant une semaine. Et ensuite, il y a l'hiver. Donc l'hiver, où en termes de plantation, il ne se passe pas grand-chose. Où là, on a préparé des fiches pédagogiques qui devraient très prochainement être finalisées pour que les enfants puissent travailler en classe. Fin d'hiver, ils vont faire des semis en classe qui viendront planter dans le parc au mois de mars-avril. On n'a pas encore défini la date. Mais voilà, l'idée, c'est de refaire plusieurs périodes, plusieurs temps forts, en tout cas dans l'année, afin que les enfants ils puissent voir aussi l'évolution de ce qu'ils ont fait. Et bien sûr, on se retrouve en juin pour cueillir et puis déguster le fruit de ce qu'ils ont planté.
Il y a le processus d'élaboration, de fabrication des fruits. Puis après, il y a aussi la question de la saisonnalité. C'est-à-dire que l'hiver, qu'est-ce qui se passe après le printemps, quand la nature s'est endormie pendant l'hiver, tout renaît, enfin des choses essentielles, simples peut-être, mais que les enfants vont palper. Alors avec, bien sûr, quand ils plantaient les framboisiers, ils se demandaient si dans 10 jours ou dans 8 jours, ils allaient pouvoir venir cueillir. Non. Non.
Eh oui, faut être patient.
Donc c'est l'apprentissage aussi de la patience. Il y a des cycles naturels et qu'il faut effectivement prendre en compte et auxquels il faut s'adapter quelque part. Voilà.
C'était votre premier gros événement, je me trompe.
Oui.
Comment ça s'est, enfin quel bilan vous en faites de ça et quels sont les prochains événements sur lesquels vous travaillez? Ben, j'imagine ça va pas s'arrêter là.
Ah bah non,
voilà. Donc j'aimerais bien savoir quel est le prochain
magnifique
projet.
En bilan déjà de cette semaine, on est très satisfait et très content.
Oui.
Et puis même dès le premier jour, on était content d'avoir vu que du monde que du monde soit venu nous aider, que les retours étaient positifs, que les gens avaient envie, enfin les gens qui étaient venus avaient envie. Donc ça, c'était notre bilan pour ces 10 jours. Et ensuite, là, on va déjà se passer l'hiver aussi.
Nous aussi, un peu, au chaud, tranquille.
Voilà, profiter de ça et puis préparer la deuxième session qui sera en mars-avril.
La deuxième session, du coup, de plantation.
Voilà.
Okay. Plantation. Alors là, plus les plantes aromatiques, par exemple, et puis aussi la prairie de fleurs. Enfin, là, il y aura aussi un second épisode, donc qui va effectivement permettre de revoir les enfants qui, entre le mois de novembre et le mois de mars, continuent. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire, ce ne sont pas des coups comme ça, ponctuels. Un petit événement, pour se faire mousser. Non, les enfants... Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que si ça a bien marché aussi, c'est que les instituteurs étaient totalement partie prenante, je dirais même enthousiastes, quelque part. Et donc ça, c'est complètement décisif. Hein.
On ne l'a pas évoqué, mais c'était des enfants de quel âge, à peu près?
Oui, alors, de CE1 au CM2.
CE2 au CM2.
Donc, voilà. 8-10 ans, grosso modo, c'est ça?
Alors, c'est ça.
Oui, et puis c'est aussi à cet âge-là qu'on se forge aussi et qu'on se reconnaît quand même avec la
Alors,
la
c'est
nature.
Vrai que les CE2, ils sont jeunes. Hein, ils étaient déterminés.
On a essayé de monter l'intervention à ce que... les enfants sont mis par groupe de 3 et qu'ils partagent aussi les tâches. Et effectivement, on voit que les plus jeunes, c'est pas évident. L'idée qu'il y en ait un qui plante, un qui aille chercher l'eau, un qui aille chercher le compost. Bon, ils courent tous à 3 chercher l'eau et tous à 3 chercher le compost. Donc, voilà.
Ils ont du mal à travailler collectivement en se répartissant, mais ça, c'est normal. Ils ont 8-9 ans, quoi.
Oui, il faut apprendre
C'est là, on s'est rendu compte,
l'organisation.
Aussi, que c'était quand même. Alors aussi, je pense que si on est si autant satisfait, faut le dire, on n'a pas voilà à se le cacher. Je pense aussi c'est parce que la préparation en amont, tout était, extrêmement bien préparé et qu'à partir de là, c'était beaucoup plus facile de pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Ça, en termes après de transmission, c'est des choses après qu'on pourra effectivement écrire, je sais pas théoriser, c'est un peu prétentieux, mais en tout cas mettre en avant. Et ça, c'est très très important.
Et oui, évidemment. Merci en tout cas à vous, Bernard et Claire. C'est déjà la fin, c'est passé à une vitesse folle. Vous êtes arrivés, hop, à peine déjà
parti. Le casseillier, vous voulez pas savoir
le casseillier? Ah oui, le casseillier. Ah, je vous avais promis que je vous poserais la question.
Alors casseillier. Justement, cassis, on connaît, enfin le cassissier, le framboisier et le groseillier. Donc le cassissier, c'est un mélange de cassis et de groseille.
D'accord.
D'où cassissier.
Cassissier. Casseillier.